Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Dans la série à succès Sex Education, Eric, le meilleur ami du personnage principal, Otis, est une figure qui parvient à réconcilier plusieurs facettes de son identité. Eric est un jeune homme, homosexuel, qui vient d'une famille nigériane, qui a un style vestimentaire flamboyant et un rire tonitruant. Pendant toute la série, il y a un tableau d'un Jésus-Christ noir qui est accroché au-dessus de son lit. Mais c'est seulement dans la quatrième saison qu'on explore vraiment son rapport à la religion, entre sa foi et sa peur du rejet de son homosexualité par la communauté de son église. Je ne vous spoile pas, mais à la fin il y a cette phrase d'Eric. « Je ne peux pas être quelqu'un que je ne suis pas. » À la fois il ne peut pas ne pas aimer les hommes, et il ne peut pas non plus ne pas être chrétien.
Il parle vraiment d'exorcisme. Je comprends pas qu'est-ce qu'un exorcisme, en fait, vient faire avec l'homosexualité. Je comprends pas.
Alors, quelle réconciliation est possible? Dans cet épisode de Passage, Jean-Michel et son amour de Dieu et des hommes, avec Daniel, au micro de Bénédicte Gilles. Je suis Louise Emerlet, bienvenue dans Passage.
J'étais un enfant assez turbulent. Les seuls lieux où j'étais vraiment en paix et serein, où mes parents n'avaient rien à me dire, c'était dans les églises. Donc, on allait toujours visiter des églises. Et je suis très vite touché vraiment au cœur par le visage innocent du Christ. Une catéchiste nous avait offert à la fin d'une séance des bandes dessinées représentant la vie de saint. Mais parmi ces bandes dessinées, il y avait une qui relatait la dernière étape de la vie du Christ, à savoir son procès, et sa passion et sa mort. Et moi, j'ai pris cette bande dessinée-là et je tourne les pages. Alors, est-ce que je savais bien lire ou pas? Je ne sais pas. Les images n'étaient pas de grande qualité, mais je tourne les pages et j'arrive aux dernières images où voilà, on fait subir au Christ la mort, quoi. Et là, je pleure toutes les larmes de mon corps et je m'adresse à cette image en lui disant « Mais comment on a pu te faire à toi ça ?» Alors qu'on m'apprend que tu n'as été que l'amour, la bonté. Et dans un même temps, je suis attiré par la beauté du corps des hommes. Les grandes sorties annuelles où tous les villages quasiment se réunissaient à Albertville, c'était les fêtes foraines. Et moi, j'allais, mes parents nous offraient des tours de manège, à ma sœur et à moi-même. C'était l'époque de Mai Brandt, un artiste voilà, qui était très beau gosse, comme on dirait aujourd'hui, enfin bon, avec ses chemises ouvertes sur son torse poilu, des pantalons hyper moulants. Et là, je suis attiré, je regarde. Alors, bien évidemment, je ne mets pas de mots dessus. Et quand on en parle dans les repas familiaux, c'est pour évoquer soit des trucs glauques, sales, des rencontres qui se passent dans des WC publics, des gens qui sont pris en flagrant délit, donc la police, donc ça crée une ambiance à la fois glauque et de peur. Ou alors, on parle aussi dans ma famille d'un de mes cousins et on dit de lui, Gilbert a des mœurs à part. Et moi, dans ma tête d'enfant, je me dis, il est comme moi. Donc j'arrive en sixième, je suis un enfant un peu naïf, mais très vite il a fallu que je me rende compte qu'il n'y avait pas que des gens qui me voulaient du bien et qu'il y avait des gens qui m'insultaient, qui faisaient courir des rumeurs autour de moi. Et je vais effectivement avoir la selle de mon vélo, mon cartable tagué à la craie, je vais avoir des insultes qui vont me tomber dessus dans la cour du collège, je vais en avoir dans les couloirs du collège, je vais faire développer toute une stratégie pour éviter mes harceleurs, je vais être tétanisé, paralysé par ces mots, pédé, enculé, tapette, ces mots qui sont rentrés comme de la merde dans mon cerveau. Je suis dans un mutisme, donc je vais pleurer la nuit dans mon lit, en faisant bien attention que personne ne m'entende. J'ai, à ce moment-là, quelques années auparavant, une de mes tantes, une des sœurs de mon père, qui s'est suicidée en se jetant sous un train. Et mes parents, par délicatesse, bien évidemment, ne vont pas annoncer cela aux enfants que nous étions, ma sœur et moi. Mais je vais entendre un peu ça. Et je vais me dire, je vais faire comme tante Marie, quoi. Je vais me jeter sous un train, comme ça sera fini. Et ce qui est très difficile pour moi, c'est que mes camarades, ils devinent ce que je suis, parce qu'effectivement, je suis bien attiré par les garçons, et c'est bien ça qu'ils voient. Je ne peux pas faire croire que je vais sortir avec des filles, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le turbo sur la dimension chrétienne et spirituelle, et là, je vais dire, moi, je suis appelé à être prêtre. Je coche toutes les cases du parfait petit catholique, je sers la messe, on me voit pieux, les mains jointes. Voilà, quand j'ai une aube pour servir la messe, je suis tout à fait dans mon élément. Et dans un même temps, je commence à avoir des désirs de plus en plus forts. Et à l'époque, bien évidemment, il n'y avait pas 36 moyens. Je suis comme attiré, parce que j'avais entendu parler que les choses pouvaient se passer dans des toilettes publiques, dans les toilettes publiques de la gare d'Albertville, qui étaient peut-être les toilettes les plus abordables pour moi. Et un samedi après-midi, je vois écrit sur les carrelettes des toilettes publiques « jeune homme, je crois, cherche jeune homme, ça, bon, rendez-vous à telle heure bon. ». Donc j'attends, et arrive un jeune homme, effectivement. Et je vais avoir ma première relation dans un lieu qui pue, il faut dire les choses comme elles sont, qui n'est pas propre, qui n'est pas sécure, parce que tout était plus ou moins ouvert, etc. Et j'en sors... Je considère que ce que j'ai fait est tellement honteux qu'il faudra surtout jamais en parler. J'en sors aussi très mal parce que ce garçon, qui était très gentil, vraiment, j'ai un souvenir de lui, d'un garçon très gentil, il veut commencer à échanger avec moi après ses premiers touche-pipi, on peut dire. Et je le jette avec un mépris terrible, en lui disant « mais tu aimes les garçons, moi non, j'ai voulu essayer, puis je le jette, quoi, avec beaucoup de violence. » Et je vois encore son regard, non pas me jugeant, mais plutôt déçu. Mon objectif, de devenir religieux et prêtre tout de suite après mes études secondaires, tout ça fait que mes années lycée, finalement, ne sont pas un mauvais souvenir. Bon, je suis toujours tiraillé à l'intérieur, mais c'est comme si il y avait quelque chose qui s'était mis un peu en veilleuse. Je quitte la Savoie à 18 ans, au grand dam de mes parents, qui auraient voulu que je poursuive mes études. Puis majeur, je quitte ma famille, en disant même à mes parents, tout de même, vous n'y comprenez rien, bon, le Seigneur Dieu m'appelle, et j'arrive à Montpellier, au couvent des Carmes. C'est une maison fermée, avec un cloître, une chapelle, un jardin. Et là, il y a une vie de prière, une vie d'études aussi. Et moi, j'arrive là, très très heureux dès les premiers jours, mais on me dit, on va faire les choses par étapes, donc tu seras d'abord ce qu'on appelle regardant, et puis plus tard postulant. La période de regardant, je loge au couvent, et on me propose d'avoir un mi-temps de travail à l'extérieur, donc je vais travailler comme ASH, donc agent de service hospitalier dans un bloc opératoire, dans une clinique de Montpellier. le matin et l'après-midi, je suis au couvent. Je vais avoir les clés de la porte d'entrée du couvent, donc je rentre et je sors quand je veux. Très vite, je vais partir la nuit dans ce que on appelle à l'époque les lieux de drague, et j'ai pas besoin de GPS. À l'époque, d'ailleurs, ça n'existait pas, mais pour les trouver, je vais commencer à avoir une vie sexuelle hyper débridée, parce que, alors, il n'y avait pas énormément de lieux à l'époque, mais on était avant le sida, donc ça partait dans tous les sens. Il y a un Jean-Michel de la nuit, un Jean-Michel du jour, un Jean-Michel pieux au couvent la nuit, qui vit des trucs très compulsif, en plus dans un jardin public, parce que il faut bien penser que je ne vais pas chez les gens, je refuse toujours les invitations. Alors je me retrouve aussi dans des cinémas porno. À l'époque, il y avait des cinémas porno ouverts sur la rue, hétéros, hein, des films hétéros, porno hétéros. Mais il y avait beaucoup d'homos qui allaient là-dedans, parce que c'était les seuls lieux de drague possible. Mais bon, c'était glauque au plus haut point. Pour le coup, l'écartèlement va être de plus en plus invivable pour moi. Je parle à un jeune frère un soir. Je lui dis, je suis attiré par les garçons, mais je suis plus qu'attiré. J'ai des relations sexuelles. J'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être exclu, ce qui ne va pas être le cas. Et en même temps, je suis soulagé parce que c'est quand même un secret que je tiens depuis des années quand même. Donc c'est la première fois que je vais pouvoir balbutier des mots. Et lui va me dire une parole finalement qui va me soulager. Jésus va te guérir. Tu es fait pour être prêtre, on le voit. Tu es fait pour être religieux chez nous. Tu as une vie de prière. Puis on voit bien que tu es fait pour cela, pour cette vie-là. Donc ne t'inquiète pas, ça va rentrer dans l'ordre d'une certaine manière. Et tu deviendras religieux et Jésus va te guérir. Et il m'a proposé, immédiatement, dès le soir même, de me confesser. Je reçois donc le pardon de Dieu là, ce soir-là. Et il me dit, tu sais, ici à Montpellier, il y a aussi un groupe de prière du renouveau charismatique qui se réunit dans une église, Sainte-Thérèse. On va y aller et puis tu demanderas la prière des frères et des sœurs, c'est-à-dire dans un petit groupe un peu plus restreint, dans une petite pièce, une petite chapelle, où on pouvait se mettre à genoux et demander qu'on nous impose les mains pour une intention particulière. Il y avait tout un petit groupe là et chacun posait sa main sur ton épaule ou ton dos ou ta tête même. Et donc moi j'ai fait ça et j'ai demandé que l'on prie pour que je sois guéri de l'homosexualité. Ça va marcher pendant quelques semaines, je ne vais pas aller dans les lieux de drague, mais très vite ça recommence. Et puis ça commence à atteindre mon équilibre affectif. Et quand je vais commencer à entrer véritablement dans la deuxième étape, c'est-à-dire le postulat après être gardant, là il n'y a plus de travail à l'extérieur, donc il n'y a plus de raison que j'ai les clés. Ça ne se justifie pas. Donc je suis vraiment dans une période où je suis beaucoup plus enfermé et ça va devenir assez vite, pour ne pas dire très vite, irrespirable pour moi, irrespirable. Et je prends la décision de partir. Et c'est là qu'on va me proposer de rentrer effectivement dans une école de prière et d'évangélisation en septembre 85. Cette école est installée dans les Alpes de Haute-Provence. Là, à la fois, je suis très heureux d'être là parce que je connais le fondateur depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un peu une star pour moi. Et j'aime bien cette vie avec une formation théologique, intellectuelle. Puis on n'est que des jeunes, donc il y a une belle émulation. Mais moi, dès les premières semaines, je tombe amoureux d'un garçon, Didier. Un très beau garçon, blond, très gentil surtout. Très, très attentif aux autres, un très beau regard, et puis un beau garçon, blond, lumineux, joyeux. Je vais le lui dire, parce que je ne tiens plus. Et il y a de l'espoir que ça soit réciproque, parce qu'il est très affectueux. Il m'appelle mon petit lapin. Et puis, quand je le lui dis, il me dit, écoute, moi, je ne suis pas homo, mais on peut rester, bien évidemment, amis et frères, puisqu'on s'appelait frères et sœurs entre nous dans cette école. Alors, ça va être dur et en même temps, ça va être assez libérateur parce que je vais rester très, très proche de lui, finalement, très, très proche. Et là où j'ai commis peut-être une erreur, c'est que je vais en parler au responsable de l'école. Alors, le fondateur de l'école, Daniel Ange, savait déjà que j'étais homo, parce que ça, je m'étais déjà confié à lui. mais les autres non, et les autres vont me dire tu sais, maintenant on a mis en place dans nos communautés des parcours de prière de délivrance. Et si tu veux vraiment être prêtre après l'école, il va falloir vivre cela. Mais on sent bien que là aussi, comme on m'avait dit, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va te délivrer. Donc ce sont des parcours beaucoup plus cadrés que les prières de guérison. C'était aller revisiter toutes nos relations familiales, toutes nos blessures familiales. L'homosexualité n'est pas dans le plan de Dieu, n'est pas voulue par Dieu, et elle vient d'une blessure d'enfance. C'est d'un simplisme à mourir, mais ces personnes-là y croient presque comme si c'était une parole divine. Le fond de la scène, c'est, puisque ça ne fait pas partie du plan de Dieu, et ça vient bien de quelque part, donc c'est satanique. Et là aussi, j'ai l'impression que ça marche. Je me dis que les choses sont en train de se calmer, ça rentre là aussi dans l'ordre, j'ai moins de désirs sexuels pour Didier ou pour d'autres. Et puis après, ça revenait. C'est-à-dire, c'était pas du tout stable, cette affaire-là. Vers la fin des années 80, l'évêque de Toulon nous propose d'aller rejoindre une petite maison qui se trouve dans le Haut-Var, et un endroit mais paradisiaque. Et là, malgré la beauté du lieu, de la chaleur des relations fraternelles, mais je vais très vite avoir mes anciens démons qui vont revenir. Je vais faire des fugues. J'ai accès à la voiture de la communauté parce que je suis celui qui fait les courses. Je pars à Aix-en-Provence, dans des saunas. Vous savez que je reviens mal, très mal. Je ne me nourris plus convenablement, je dors très mal, je suis hyper fragilisé. Et j'en parle à la communauté. Et il y a dans cette maison un ermite. Et il vient, pas tous les jours, mais très régulièrement, célébrer la messe. Et lui, il pose un diagnostic. Il dit, Jean-Michel, il est possédé par le démon de l'homosexualité. Il faut l'exorciser. On me dit que il va y avoir une prière sur moi le soir en huis clos, et on me parle d'exorcisme peut-être quelques heures avant. C'est plus du tout des prières de délivrance ou avant de guérison, là c'est un cérémonial, c'est un rite qui répond à des critères bien précis. Il est avec son habit gris de frère Saint-Jean, il met par-dessus son aube, son étole. On a l'impression qu'on est dans un film, mais c'est démon de l'homosexualité sort de ce corps, sort de Jean-Michel. Et donc, mon corps va réagir, je vais commencer à rentrer en convulsion, je vais me taper la tête contre les carrelages de la chapelle, qui sont noirs, blancs, je me tape la tête là contre, je commence à baver, à hurler. Je ressors de là, je suis épuisé, mais vraiment, physiquement et psychologiquement, je vais dormir. Le lendemain, je suis de nouveau très mal et on me propose un second exorcisme. En disant, il y a des adhérences, c'est comme un cancer un peu. La tumeur n'est pas sortie totalement. Et là, je vais être tellement mal que je veux me suicider. Je veux me jeter du haut de la falaise. La falaise, elle existe, véritablement. Elle donne sur un jardin public en bas. Et je suis rattrapé in extremis par Yvan, un des frères de la communauté. Et je suis très mal. Là, ma sœur me téléphone, me dit « j'entends à ta voix que tu vas pas bien ». Elle me dit « tu bouges pas de là où tu es, j'arrive ». Donc elle a fait les 400 km avec une de ses amies qui avait le permis. Elle est arrivée dans ce jardin public là en bas. Et là, sur un banc, je lui ai tout dit. Je lui ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui un coming out. Je lui ai tout raconté, mais je ne lui raconte pas ce qui se passe dans l'intimité de la chapelle. Et elle m'a donné tout son amour en me disant « tu es mon frère et tu le resteras quoi qu'il arrive ». Elle a dû rester peut-être, 2 ou 3 jours là, dans cette communauté, et elle est repartie en Savoie, et j'étais tellement fatigué qu'on m'a proposé d'aller me reposer en Suisse, chez un prêtre, ami de la communauté. Et il m'accueille dans son presbytère, un très beau presbytère en Suisse, un chalet de montagne, enfin magnifique. Je suis bien, peut-être 24 heures. Mais très vite, je commence à avoir des angoisses, à être pas bien. Et il avait été au courant de ma situation. Et il va me dire, il y a un laïc là qui a des dons d'exorcisme et pour chasser les démons. Donc, on va y aller. Donc, on y va. Et là, je vais vivre 5 exorcismes. Je reviens dans le Var, mais ça ne va pas mieux. Alors, entre-temps, on a entendu parler dans cette communauté d'un exorciste dans la région parisienne qui est en lien avec une mystique. Et donc, on va m'amener chez lui, parce que voilà, il a des dons. Alors, c'est un prêtre, là. Et je vais arriver un après-midi de printemps, là-bas. Très beau lieu, à côté d'une rivière, il y avait des fleurs. C'était vraiment très, très beau, un très beau presbytère. Et ce prêtre m'accueille. Il a, dans son presbytère, un religieux chartreux qui est en repos. Donc, il est en repos là pour quelque temps. Et on va monter donc dans la chambre qui jouxte son bureau. Il va s'absenter quelques minutes parce qu'il va téléphoner à cette mystique. Après, il revêt son aube, son étole, l'eau bénite. Et il commence le grand exorcisme qui est une prière assez longue. Et je commence à être très agité. Je suis allongé sur un lit. Le religieux novice chartreux qui est en repos là me tient. Il est assez costaud, il me tient, mais ça ne suffit pas. Alors, je suis tellement agité, comme si mes forces étaient décuplées. Hein. Enfin, c'était un vrai molosse, quoi. Mais je le balançais. Alors, on m'attache. Le prêtre dit, on va l'attacher. Donc, on m'attache sur un lit. C'était sanglé, là, sur ce lit. Voilà, mes jambes, mes chevilles, mes poignets. Il continue comme ça. Alors, ça a duré, parce que c'est très long, le grand exorcisme. C'est très, très, très long. Et là, je ne suis toujours pas bien. Donc, dans la communauté, on téléphone à l'évêque. Et lui, de loin, il est mis au courant un peu de ce que je vis, dit il faudrait que Jean-Michel fasse une cure de sommeil. Donc, on prend contact, c'est pas moi qui m'en occupe de ça, avec un des hôpitaux psychiatriques de Nice. Et on me conduit quelques jours après aux portes de l'hôpital. J'arrive là, on est au mois de mai-juin, il fait très chaud, je suis en sandales. On est devant les grilles de l'hôpital, avec un de mes amis qui a été séminariste avec moi, Philippe. Et là, je vois derrière une fenêtre où il y avait des grilles, des mains comme ça, et quelqu'un qui est en train de chanter, alors qu'on est au début de l'été, « Il est né le divin enfant », qui était un chant de Noël. Je dis non, ils m'auront pas. Non, je rentrerai pas là-dedans. Ça a été une espèce de prise de conscience d'un coup, là. Le retour sur le plancher des vaches savoyardes, enfin, le réalisme, je pars en courant. C'était très clair dans ma tête. Si je rentre là-dedans, je n'en sortirai pas. Et Philippe me rattrape, non pas pour m'obliger à rentrer dans l'hôpital, mais pour me dire non, mais ne t'inquiète pas, on va trouver une autre solution. Et on part en Provence, où j'avais un ami moine. On lui raconte en deux mots ce que je vis, et lui dit à Philippe, je le garde ici, donc il me garde peut-être une quinzaine de jours. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je tournais une page et que je ne serais jamais ni religieux, ni prêtre. J'ai le souvenir d'être dans un lit, dans le lit de la chambre où j'étais, d'avoir eu cette prise de conscience. C'est comme si le plafond se rapprochait de moi et que je touchais à nouveau le réel. Il y a quelque chose de vertigineux et en même temps, ça m'apaise parce que il y a quelque chose d'une liberté qui est en train de m'être redonnée. Alors, pas tout de suite, hein, mais progressivement. J'ai plus de couverture sociale, je n'ai plus d'avenir, je ne sais pas du tout, voilà, je n'ai pas de diplôme particulier, donc qu'est-ce que je vais devenir? Bon, au bout de 15 jours, 3 semaines dans cette abbaye, je vais retourner en Savoie, dans ma famille. Et ma mère me dit, écoute, tu as un ami médecin sur Montpellier, va le voir, lui peut-être. Bon, je ne sais pas, ma mère est un peu dans le trouble, hein, de tout ce que. Je ne lui dis pas tout, mais je lui donne quelques éléments. Et donc, effectivement, quelques jours après, je reviens sur Montpellier et je vais voir cet ami médecin à l'époque. Il me dit, si vous êtes prêt à faire des ménages, moi, demain matin, je vous embauche. Et il me semble important que vous travailliez, que vous ayez une vie qui redevienne un peu normale. Hein. Bon. Donc, j'accepte. Et je vais reprendre une vie effectivement normale. Je travaille la journée, j'ai mon petit studio, je vais payer mes premières factures d'électricité, de téléphone, et je m'habille un peu comme tout le monde. Et puis un jour, je croise dans la rue un prêtre, qui était curé à Montpellier, qui était aumônier d'un collège. Et il me dit « mais ça ne te plairait pas d'être surveillant dans un collège ?» Je lui dis si. Donc, la rentrée suivante, j'ai commencé à être surveillant dans un collège. J'ai repris des études de théologie. Et c'est là que le 1er février 92, donc, je rencontre Daniel.
Donc, en 1992, j'ai 22 ans. Je suis étudiant à ce moment-là à la fac de droit à Montpellier. Et le samedi 1er février 92, j'ai l'idée de rencontrer un garçon. Il y a plusieurs façons pour rencontrer quelqu'un. Et une des façons, à l'époque, c'est les réseaux téléphoniques. En fait, ça consiste à enregistrer une petite annonce. C'est des annonces assez courtes où on donne son âge, la ville où on se situe. Et ensuite, en fait, on écoute les autres annonces, donc on reste en ligne. Et lorsqu'on veut rentrer en relation téléphonique avec une personne, eh bien, il y avait une petite manipulation à faire. On appuie sur une touche et on peut rentrer comme dans un salon privé. Et du coup, on échange un peu pour savoir si la rencontre physique peut avoir lieu. Voilà, c'est comme ça que je rencontre Jean-Michel. On prend un verre dans un bar qui est dans le centre-ville. Donc, on échange et ensuite, il m'invite dans son petit appartement, l'équivalent d'un studio près de l'établissement scolaire où il est surveillant. Il a 27 ans. Je rencontre un garçon qui est très gentil, très doux. J'ai vraiment une attirance pour Jean-Michel. Il correspond vraiment physiquement au type de garçon que j'apprécie.
J'ai tout de suite vu que c'était un garçon qui ne me jugerait pas. J'ai une peur panique quand je fais des plans rapides comme ça, que l'on me juge et qu'on juge mon parcours, quoi. Qu'on me traite de curé, de machin. Bon, ça n'a pas bonne presse dans le milieu homo à l'époque. Bon. Et je vois, je devine dans le regard de Daniel qu'il est bienveillant.
C'est le premier jour des vacances scolaires d'hiver. Donc Jean-Michel a prévu de partir dès le lendemain. Donc, dans sa région natale, où il y a encore sa famille, Jean-Michel me donne son numéro de téléphone fixe. Moi, j'habite chez mes parents. Par discrétion, je ne voulais pas qu'un garçon appelle chez mes parents. Donc, je ne lui laisse pas de téléphone. Et Jean-Michel fait confiance. Et il me dit, si tu veux, tu me rappelles. Et il me dit qu'effectivement, il souhaiterait qu'on se revoie.
C'est la seconde semaine des Jeux Olympiques d'Albertville, ma ville natale qui accueille les Jeux Olympiques, ce qui est quand même pas banal. Donc je lui dis, écoute, je reviens dans une quinzaine de jours, appelle-moi si tu veux.
Je laisse passer 15 jours et je prends le téléphone et j'appelle Jean-Michel pour le revoir. Jean-Michel décide de me parler de façon plus explicite de son parcours dans l'Église.
Et Daniel va accueillir, enfin plus qu'accueillir d'ailleurs, il va estimer tout cela et croire qu'un amour est possible avec quelqu'un qui n'est pas encore en paix avec tout ça. Moi, je suis encore très travaillé par la doctrine de l'Église catholique qui interdit les relations sexuelles homosexuelles. Je suis encore très, très tourmenté parce que je suis encore beaucoup dans le tourment. Je ne suis pas sorti du tourment. Puis bon, je viens quand même de vivre des traumatismes. Je ne mets pas les mots dessus. Il a fallu des années pour que je mette les mots dessus. Mais enfin bon, il accueille quand même un grand traumatisé.
Et donc, il me parle de ses expériences dans les communautés religieuses où il a essayé de s'intégrer. Je n'ai pas de mouvement d'étonnement. Je dois sentir à ce moment-là que ça correspondait à ce qu'il était extérieurement. Quelqu'un qui, effectivement, avait eu un cheminement intérieur. Ça me paraît normal qu'il me dise qu'il a eu ses expériences dans l'Église catholique et que c'est quelque chose d'important pour lui dans sa vie. Mais il me parle pas du tout dans les premiers mois des thérapies de guérison dont il a été victime. À 22 ans, j'étais très éloigné de ce qui pouvait se vivre à ce moment-là pour les personnes homosexuelles catholiques qui ont eu à subir ce genre de thérapie. Moi, je suis d'une famille qui est d'origine portugaise. Mes parents sont arrivés en France dans les années 64-65. Nous avons une pratique religieuse, dominicale, mais je ne suis pas d'une famille très pratiquante. Moi, lorsque j'ai senti qu'effectivement j'étais homosexuel, ça n'a pas été compliqué dans ma tête pour... ce n'est pas un conflit pour moi, 1992, que d'être homosexuel et d'être catholique. Jean-Michel me parle pour la première fois de thérapie de conversion en hiver 95, à la fin de mes études donc de travailleur social, donc 3 ou 4 ans après notre rencontre. Il parle vraiment d'exorcisme. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'un exorcisme, en fait, vient faire avec l'homosexualité. Je comprends pas. Alors, je ne dis pas que c'est la première fois que je suis confronté à l'idée d'une possibilité de changement d'orientation sexuelle chez une personne homosexuelle, parce que lorsque j'ai annoncé à mes parents que j'étais homosexuel, la réaction de mes parents a été un peu la même que celle de beaucoup de parents, c'est-à-dire tu peux te soigner, tu peux changer d'orientation sexuelle. Mais c'était la première fois que j'entendais finalement une personne me dire, ben voilà, moi, c'est des personnes qui ne sont pas issues de ma famille, qui veulent m'aider à changer d'orientation sexuelle. Et que lorsque je comprends ce qu'est donc une thérapie de guérison et que donc ça implique un exorcisme, la violence d'un exorcisme, je comprends en tout cas, à ce moment-là, pourquoi le parcours déjà professionnel de Jean-Michel a été plus compliqué que pour une autre personne. Mais je comprends aussi la démarche de vérité de Jean-Michel dans laquelle il a voulu inscrire sa vie.
Et il va estimer cela. Alors, est-ce de la naïveté de sa part? Il n'avait pas tous les éléments, peut-être, mais je pense surtout que c'est de l'amour. Oui, je pense qu'il contribue à ma reconstruction parce qu'il m'aime et c'est réciproque. Puis il va me réconcilier aussi avec le plaisir sexuel, avec mon corps, parce que j'ai développé une haine de mon corps quand même au fil des années. Alors, ça ne va pas se faire en une fraction de seconde. C'est un être, Daniel, qui, quand il dit « je t'aime », ce n'est pas du bout des lèvres, c'est tout son être qui s'y engage. Hein. Et ça, c'est très rare de rencontrer cela. Il faut être très patient pour croire qu'un être comme moi, éclaté finalement, pulvérisé par beaucoup de côtés, puisse se reconstruire, puisse ramasser les morceaux et puis bâtir quelque chose. Au bout de 4 ans, on va me proposer d'être adjoint en pastoral scolaire dans un lycée, c'est-à-dire d'avoir une responsabilité pour la proposition spirituelle chrétienne dans un établissement catholique d'enseignement. Je vais découvrir à ce moment-là que de cette vie explosée par les thérapies de conversion, cette violence, etc., va naître une force créatrice. Le désir que naisse au sein de l'Église une fraternité de prière au service des personnes homo à l'époque, bon, on se rajoutait ensuite au fur et à mesure des rencontres les personnes trans, va prendre tout doucement forme. Au début des années 2000, 2004 exactement, va naître la communion Béthanie, une fraternité de prière œcuménique aussi, ouverte à des catholiques, des protestants et autres, cette thématique d'une ouverture à tous, et particulièrement aux personnes homo et trans, pour offrir des retraites spirituelles. Et c'est dans ce contexte-là que va se déployer, comme une terre de fond, mon combat politique. Donc, je me suis engagé au sein d'un collectif qui s'appelle Rien à guérir, qui a été créé juste après la diffusion du documentaire d'Arte Homothérapie Conversion Forcée pour recueillir la parole de victimes, de rescapés de thérapie de conversion. Et à ce titre-là, j'ai été invité effectivement à être auditionné à l'Assemblée nationale, au Sénat, quand on a, en République française, voulu voter la loi interdisant les thérapies de conversion.
Il a, je pense, trouvé véritablement un sens à ce qu'il avait vécu. Voilà. Cette loi permet d'aider d'autres personnes. Et je crois qu'on peut aller au-delà de sa souffrance lorsqu'on se met au service des autres, lorsque c'est possible.
Je suis dans la seconde mi-temps de ma vie, j'ai 58 ans. Donc, la seconde mi-temps, bien sûr, on la vit pour soi, mais surtout pour eux, pour les jeunes, et en particulier là, pour les jeunes LGBT, QIA+, qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont dans une quête spirituelle très forte. Ça, je le vois énormément sur les réseaux sociaux, je reçois énormément de messages, et je ne voudrais pas qu'ils se fassent happer par des groupes, des personnes, des individus qui leur voleraient leur jeu et qui seraient dans une tentative d'emprise ou d'obscurantisme, d'où que ça vienne d'ailleurs, hein, mais là particulièrement dans mon domaine, dans le christianisme.
La médiatisation me fait craindre des actes de violence physique. La violence verbale, elle est là au quotidien. Façon peu courageuse de la part de ceux qui sont violents, puisque ça va être de la violence au travers des réseaux sociaux. Je pense que les personnes homosexuelles, là, qui ont témoigné dans le cadre de cette loi contre les thérapies de conversion, sont des personnes très courageuses. Et que ce courage-là, eh bien, ça doit être un exemple, un modèle pour l'ensemble de la société.
Je suis régulièrement l'objet de... Alors, pas de menaces de mort, pas encore, mais en tout cas, oui, régulièrement, pour ne pas dire presque tous les jours, considéré comme un hérétique, comme un danger pour les jeunes. Je suis aussi considéré comme étant déjà en enfer. Hein. J'essaie de pas trop polluer Daniel avec cela, parce que c'est quand même violent et ça lui fait peur, à juste titre d'ailleurs. Je ne cache pas que ça me fait peur parfois, oui, parce qu'on ne sait jamais ce que ces gens-là sont capables. Cette violence, elle me parle beaucoup de mes détracteurs, qui sont même souvent pas très très bien. Et puis, elle me dit aussi que, ben, qu'il faut continuer et qu'il va falloir que je vive avec.
Jean-Michel, il pourrait ne plus être là aujourd'hui, ou il pourrait aller très mal psychologiquement. Jean-Michel, c'est un exemple de résilience, de confiance dans ce que le lendemain peut nous réserver de beau, de confiance dans les rencontres que nous faisons au cours d'une vie. Je sais que c'est beaucoup parce que des personnes ont tendu la main à Jean-Michel, qu'il est aujourd'hui ce qu'il est. Donc je remercie finalement ces personnes qui ont une vision humaniste de la religion.
Il y a des moments où tu te dis, mais tout ce que j'ai vécu, tout, absolument tout, même parfois des petits détails qui te reviennent comme ça, mais aujourd'hui, ça prend sens. Ou plus exactement, c'est même encore plus fort, ça prend feu. Ça éclaire quelque chose, ça réchauffe quelque chose. Ça, c'est juste fabuleux. Ça, c'est ça, l'unification. C'est quand tu peux dire, je ne jette rien, je prends tout le bois là qui est en moi, parfois même un peu pourri, tout ça, et ben ça peut prendre feu.
Cet épisode de Passage a été scénarisé, tourné et monté par Bénédicte Gilles. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Louise Emerlé est à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.